Accès libre avec Luc Fortin.
Salut tout le monde, 28 octobre. J'espère que vous allez bien. Jean-Sébastien Laliberté à la technique. Christiane Campagné à la recherche. Monsieur Laliberté, salut.
Allô.
On se croise les doigts. Je sais, toi, t'es un Android, hein?
Pas en tout.
Non, t'es un usager iPhone?
Oui, okay. Je suis avec la pomme. Mon expérience avec Android n'a pas été concluante, donc... Okay.
J'avais oublié. Ben c'est ça, c'est que, bon, avec Apple TV+, qui est lancé le 1er novembre, on présume qu'on va avoir iOS 13.2 cette semaine pour nous permettre d'avoir accès à ceux et celles qui veulent s'abonner. Et ce qu'on espère, c'est qu'ils vont avoir réglé les petits problèmes majeurs. Exemple, bon, quand tu raccroches un téléphone, VoiceOver ne fonctionne plus. Également, si tu veux entrer dans les messages normalement, le focus allait au dernier message. Là, il s'en va n'importe où. Alors, je dois faire des balayages, des fois 28, pour me rendre à envoyer un message à Jean-Sébastien. Et c'est pas juste vrai dans messages, c'est vrai à peu près partout. Donc, le focus se fait mal au bon endroit. Donc, on espère que VoiceOver sera corrigé, et ce, dans le 13.2. Aujourd'hui, Saint-Romuald, Saguenay, Montréal et de l'international en passant par Laval. Je cause avec Francine Gagnon, qui est directrice du regroupement des organismes de personnes handicapées du Saguenay. Il sera question de transport adapté. Bonjour Francine, comment allez-vous?
Ça va bien, vous aussi?
Oui, merci, c'est gentil. Bon, comment vont les discussions à l'effet là, d'améliorer la situation du transport adapté qui est réduit considérablement les week-ends? Y a-t-il une évolution dans les pourparlers?
Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Oh. La seule petite différence qu'il y a avec, je dirais, il y a deux semaines, c'est que dans le secteur de la baie, finalement, la société de transport a remis en fonction des taxis pour les déplacements de la clientèle en déficience intellectuelle, ce qui permet à l'organisme de ce secteur-là de pouvoir recevoir cette clientèle-là. Mais ils n'ont toujours pas les autobus de transport adaptés de disponibles dans ce secteur-là. Donc, il n'y a pas grand-chose de changé, à vrai dire.
Est-ce que les ajouts sont uniquement pour les activités organisées par le dit organisme?
Oui.
OK. Donc, c'est pour des choses spécifiques.
Dans ce secteur-là, il y a un seul organisme de personnes handicapées.
Oui. Sauf que monsieur, madame, tout le monde, à l'individuel, veut peut-être aller du point A au point B.
C'est-à-dire qu'à l'individuel, c'est pas là que les coupures se sont passées. Les coupures se sont passées dans les activités.
Uniquement. OK.
Vendredi soir, le samedi, le dimanche, pour les activités de groupe, parce qu'il y avait un manque de chauffeurs.
Okay.
Donc, il y avait 3 autobus en moins. Et finalement, la société de transport, le choix qu'elle a fait, c'est de couper le transport vers les activités de groupe, ce qui pose bien des problèmes aux
organismes. Mais tout ce temps-là, et bon, mea culpa, j'avais compris l'histoire des activités, mais je croyais qu'on parlait surtout des activités parce qu'on jugeait que c'est ce qui occasionnait le plus d'ennuis au plus grand nombre, mais j'avais pas réalisé que les demandes individuelles, elles, étaient encore maintenues.
Sont encore maintenues, oui. De là à savoir si tout le monde est satisfait, c'est une autre question, mais oui, les demandes individuelles sont encore maintenues.
Si Luc demande un transport à l'adresse à côté de là où a lieu l'activité, puis ensuite il marche jusqu'à l'activité, ça fonctionnerait-tu?
Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça, mais c'est parce que nous, le problème, c'est que notre territoire est immense. C'est plus grand que le territoire de la ville de Montréal, mais avec pas beaucoup de monde dedans.
Oui.
Donc, les transports, souvent le point d'arrivée, le point pour se rendre, il y a une grande perte de temps, ce qui permet pas d'optimiser le temps de transport. C'est vraiment un problème.
Oui. En attendant que le problème de main-d'œuvre se règle, parce que, bon, il y a, semble-t-il, un manque à gagner au niveau des salaires, c'est quoi, 15 $ au lieu de 26 si on est ouvrier?
Les chauffeurs de transport adaptés ici partent à 14 et
14.
Quelque chose
okay.
de l'heure. Ils se doivent de travailler une fin de semaine sur 2 et 6 jours sur 7. Donc,
ça c'est beaucoup, 6 jours sur 7.
En contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est pas favorable à l'embauche.
Ouais. Qu'est-ce que la. Parce que ça m'apparaît un problème non réglable. Là, je veux dire, si on n'augmente pas les conditions, l'attrait de ce type d'emploi-là ne sera jamais là.
Ouais, c'est tout ça. ça. Là. C'est tout ça qu'on essaie de faire comprendre aux différents acteurs. Par contre, il faut saluer les efforts de Ville-Saguenay parce que...
C'était ma prochaine question, la ville, là-dedans, oui?
Oui, ben c'est ça. On a rencontré la mairesse Josée Néron à quelques reprises. Elle comprend très bien la situation. Il y a un conseiller municipal qui est présentement affecté au dossier, qui a vraiment la volonté de trouver des solutions. On dirait que c'est un peu notre espoir présentement, mais pour l'instant, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a rien de réglé dans son entièreté.
Ouais.
Mais c'est sûr que le problème est vaste aussi. Hein. Il y a un problème de sous-financement chronique au niveau du transport adapté. C'est pas unique à notre région, mais nous, en plus, on a une région qui vieillit beaucoup. On a... l'achalandage est de plus en plus grand et il n'y a pas de subvention nouvelle. Le nouvel achalandage n'est pas subventionné par le ministère des Transports. Donc, la clientèle augmente toujours, mais les budgets ne suivent pas.
Mm-hmm.
Donc, c'est un peu difficile à ce niveau-là. Là.
Je remarque qu'il y a quand même une assez belle couverture au chapitre du déroulement, que ce soit les conseils de ville, que ce soit... Mais est-ce que dans les éditorialistes, il y a des gens qui ont pris position qui eux-mêmes ne sont pas nécessairement en situation de handicap? Est-ce que vous avez un appui des gens de l'extérieur du milieu?
Bien, je dirais que, bon, premièrement, le milieu est très, très, très mobilisé.
Oui, ça, on le sent.
Et la presse saguenéenne a bien répondu. Vraiment, là... autant la presse écrite que radio, télévision, tous suivent la situation de près, reviennent occasionnellement pour prendre des nouvelles. Mmh. Oui, là-dessus, là, on a vraiment eu une bonne couverture. On a fait une conférence de presse il y a quelques temps, puis vraiment, ça a bien répondu. On a eu une couverture quand même assez adéquate. Là-dessus, on peut pas se montrer insatisfait. C'est sûr qu'on voudrait toujours
bien
plus,
sûr.
Là, mais... Et c'est quand même bien.
Est-ce que le député provincial peut être utile? Parce que ce que je comprends, c'est qu'on a besoin d'une enveloppe, disons, qui était inattendue au budget au départ.
Oui, effectivement. Oui, nous, notre député, c'est Mme André Laforêt, qui se trouve à être ministre responsable de la région et qui se trouve à être ministre des Affaires municipales. On l'a rencontrée il y a quelques semaines. Elle a semblé très ouverte à ce qu'on lui disait. Suite à ça, on lui a envoyé une lettre relatant un peu qu'est-ce qu'on lui avait dit dans la conversation.
Mm-hmm.
Mais on n'a pas eu d'autres nouvelles depuis ce temps.
Okay.
Là, j'ai essayé de le relancer à quelques reprises, son attaché politique. J'attends un retour d'appel, mais de ce côté-là, il n'y a pas... Il n'y a pas de suivi. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien fait, mais si c'est fait quelque chose, on ne le sait pas.
Ouais, peut-être rappeler aux gens qui sont moins familiers avec le dossier que depuis les coupures, il y a eu quand même ajustement, à savoir qu'aux deux semaines, il est permis d'aller dans certaines activités qui étaient...
Le vendredi soir,
c'est
oui.
ça, qui n'étaient pas disponibles pendant un certain temps. Est-ce que ça a diminué un peu la pression?
Ben, c'est sûr que toute amélioration diminue toujours un peu la pression, mais reste quand même que c'est pas la situation normale. C'est pas... tu sais, vous savez, il y a des personnes qui, la sortie du vendredi soir, c'était la seule fois dans la semaine qu'elles sortaient parce qu'elles sont plus à l'école, elles n'ont pas de travail, elles n'ont pas d'emploi, elles n'ont pas de plateau de travail en centre de réadaptation. Donc là, c'est un problème qui a beaucoup de dommages collatéraux.
Bien
parce
sûr.
Que Et on touche au répit aux parents aussi.
Mais
ceux qui allaient aux activités de groupe le samedi, mais pour les parents, c'était un répit.
Ouais. Donc, mais si je mets sur la table les enjeux, ce que j'entends, c'est on a un manque de main-d'œuvre. Les gens qu'on souhaite embaucher ne sont pas intéressés parce que les conditions sont exigeantes.
Oui.
On a de la distance à couvrir entre le point A et le point B, ce qui fait que la même personne, si on l'embauche, ne peut pas faire autant de déplacements que si ça se passe à Montréal. Il y a un problème de budget pour la STS.
Oui.
Donc, il me semble que tout le monde a raison, si on veut, dans le sens de... Il n'y a pas de solution à première vue, en tout cas dans les éléments qu'on a en main, là.
On a fait on a déposé une demande de rencontre auprès du ministre des Transports,
ouais,
M. Bernardel.
Ouais.
On est en attente. On a le député Jonquière qui nous aide beaucoup là-dedans.
Mais s'il vous dit oui à vous, est-ce qu'il va être obligé de dire oui à d'autres commissions de transport qui ont des problèmes et des manques à gagner au chapitre du transport adapté, parce que il y a encore plusieurs villes au Québec qui n'ont pas du service 16 jours par semaine.
Oui, on le sait qu'il y a des problèmes ailleurs, mais c'est justement, nous, on n'a pas l'intention de le rencontrer uniquement pour parler de notre problème à nous, mais c'est parce que c'est pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure. Le financement du transport adapté ne suit plus du tout, du tout le nombre de clients et les besoins des clients. Puis parallèlement à ça, on fait face à de nombreux paradoxes. Je prends l'exemple de Ville-Saguenay, mais je pourrais prendre d'autres exemples. On a un plan d'action municipale que la Ville assume très bien. Il se développe plein d'opportunités pour les personnes handicapées, mais ils ont de plus en plus de difficultés à se rendre à des activités ou à divers endroits. Donc, il y a comme un peu... D'un côté, on prône beaucoup l'inclusion et l'intégration sociale, on développe plein de choses, mais de l'autre côté, le transport ne suit pas. Donc, c'est de tout ça aussi qu'on veut parler avec M. Bonnardet.
En tout cas, depuis la fête du travail, Ville-Saguenay fait beaucoup parler, autant chez les capés de Michel qu'ici à Accès Libre, tant pour le transport inadéquat que pour un manque d'accessibilité, selon Julien Renaud, espérant pouvoir bientôt raconter des bonnes nouvelles émanant de Ville-Saguenay. Ouais. Francine Gagnon, qui est directrice du regroupement des organismes de personnes handicapées du Saguenay. Merci beaucoup.
Merci, ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Hall & Oates avec Sarah Smile. C'était pour vous, ça, Sarah Rouleau. En tout cas, j'ai pensé à vous hein, ce matin quand je faisais mon choix musical. Sarah, qui est responsable des communications, marketing et événements spéciaux du côté d'INCA Québec. Bonjour, Sarah.
Bonjour.
Non seulement vous voulez rendre les déplacements plus faciles pour les personnes aveugles autour du bureau d'INCA, mais vous voulez un quartier accessible, mais un quartier complet.
Oui, ben en fait, on veut pas nécessairement que tout soit accepté. Ben, ça serait notre rêve,
ouais.
Mais c'est ça, le but là, de quartier accessible, c'était de rendre le quartier Sainte-Marie, comme tu l'as dit, où on est situé, où la Fondation Yensa est située, plus accessible pour les personnes ayant une perte de vision.
Plus accessible, OK.
Donc, oui, on voulait que entre le métro Frontenac et notre local, les gens puissent se déplacer de façon plus sécuritaire, de façon plus autonome, mais aussi qu'ils sachent un peu plus qu'est-ce qu'il y a autour, tu sais, qu'ils sachent, il y a tel commerce, tel centre sportif, telle bibliothèque, pour qu'ils puissent en profiter aussi pleinement. Et c'était un peu en commençant autour de nous, c'est un peu un projet pilote aussi, de dire, bon, nous, on va devenir plus accessible, on va sensibiliser les gens autour de nous à l'être plus, puis on va essayer que les institutions autour, les commerces, le soient plus. C'était un peu un test, puis éventuellement, de le montrer en exemple, tu sais, de dire, bon, ben regardez, tel centre sportif est devenu plus accessible, ben pourquoi pas un autre centre sportif, puis et tout, là, que ça fasse un peu boule de neige. Mais on s'entend qu'on ne s'attend pas à ce que tout le quartier de tous les recoins devienne accessible. Ça,
est-ce que je comprends que c'est une initiative où chaque bureau d'INCA à travers le Canada tente de faire un petit peu la même chose, ou c'est vraiment,
oui,
c'est sorti de votre tête?
Oui, non, effectivement, dans le fond, la Fondation INCA au niveau national, ouais, on souhaite devenir des pôles d'accessibilité, puis comme je disais, ben pourquoi pas commencer autour de nous, tu sais, commencer nous-mêmes à être le plus accessible possible, puis ensuite en devenant un peu des exemples un peu partout. Fait que oui, à Toronto, ils l'ont fait avant nous, sur les rues Yonge et Sinclair, qui sont très populaires là, à Toronto, très passantes, avec beaucoup de commerces et tout, et ils ont sensibilisé à peu près 150 commerces à mettre des bandes Blind Square pour que justement la navigation intérieure aussi soit plus facile, qu'on sache qu'est-ce qu'il y a dans le quartier et tout. Donc, on s'est très inspiré d'eux, mais on l'a fait à notre manière, bien sûr, en rajoutant notre touche, mais nous aussi, là, on faisait la promotion, bien sûr, de Blind Square. Mais on montrait, en fait, c'était plus de donner des exemples d'accessibilité. On n'est pas là pour les imposer, mais c'est de montrer que ça peut être facile aussi. Oui, sensibiliser, parce que ça, on le sait, on n'est pas les seuls non plus à sensibiliser sur l'accessibilité, mais c'était l'importance aussi de les outiller puis de leur montrer qu'il y a des façons simples d'être plus accessibles.
C'est drôle, j'ai jamais utilisé Blind Square à l'intérieur. Va falloir que j'essaie ça.
Oui.
Mais en pratique, Sarah, qu'est-ce que ça veut dire entre le métro Frontenac puis le 2085 Parthenay pour qu'un jour, ça soit plus facile pour moi et les autres? Parce que moi, je sais qu'est-ce que je ferais. Là, je mettrais la hache dans un paquet de bancs, dans des poteaux, dans des arbres, puis je tasserais des carrés de gazon qui sont en plein milieu du trottoir dans un pâté de maison, je ne sais plus lequel, pour le mettre dans... En tout cas, il y aurait des changements à faire sur le trottoir. Fait que toi, tu vas faire quoi?
Ben, nous, c'est sûr que déjà, il y a les feux sonores qu'on aimerait avoir, mais on sait que c'est long.
Oui, puis est-ce qu'il y a une intersection qui... J'essaie de penser, est-ce qu'il y a une intersection où il y a des enjeux vraiment de sécurité? Ben, en fait, ce qui est compliqué, très honnêtement, c'est la sortie du métro Frontenac. Pour se rendre au coin, il faut aller de biais.
Oui,
ça, c'est vrai que
c'est
pas simple. Mais ça, qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus? Rien?
Là, il faudrait y penser.
Ouais.
Mais par exemple, la station Frontenac, on aimerait bien la rendre accessible. Là, on n'a pas encore... On a un contact avec la STM, mais c'est pas promis qu'on va rendre la station accessible encore. Mais c'est un premier pas.
Mais ça veut dire quoi, rendre une station accessible?
Ben, par exemple, Blind Square, ça peut aider. Par exemple, nous, on est habitués, Blind Square, c'est un GPS qui va nous dire où sont les différents commerces, mais à l'intérieur, on peut utiliser avec des bornes qui vont indiquer la direction, par exemple, justement, est où l'entrée? Est où l'entrée? Est où dans un commerce, ça peut être est où la caisse? Est où l'accueil? C'est quoi les heures d'ouverture? Qu'est-ce qu'ils vendent dans ce commerce-là et tout? Donc, dans la station Frontenac, par exemple, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir des bornes pour savoir, il y a deux entrées à la station, donc comprendre par où on peut rentrer. Ouais. Ah, il y a un dépanneur qu'on ne savait pas qu'il existait.
Ben, effectivement, j'ai passé devant sans savoir qu'il était là.
Oui, et aussi, on le sait, les directions par où aller pour aller vers Honoré-Beaugrand ou non vers Angrignon. C'est un exemple, mais c'est des choses très pratiques et très utiles.
Mais s'il n'y a pas d'Internet, j'essaie de penser, Frontenac, Internet est là, mais à partir de Préfontaine jusqu'à Beaugrand, il n'y a pas d'Internet, donc ça pourrait pas fonctionner, j'imagine.
Tu n'as pas besoin d'Internet.
Pour Blind Square?
Ça va fonctionner avec la borne. Le signal est envoyé à la borne, entre la borne et le téléphone cellulaire pour l'intérieur.
Okay.
Et bon, on parlait des feux sonores. C'est sûr qu'avoir des feux sonores proche d'INPS, ça serait la moindre des choses.
Ouais.
Et nous, on le sait que c'est ça. Les feux sonores, ça peut être long. Donc, une autre solution, c'est Key to Access, qui est plus facile à installer, qu'on n'a pas nécessairement besoin de tout rechanger le feu de circulation. On peut l'ajouter à un feu de circulation qui existe déjà.
Okay.
Donc, Key to Access, c'est une application mobile, mais tu peux aussi ne pas avoir de téléphone cellulaire et avoir une espèce de manette qui appelle le feu sonore. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on essaie de faire, de mettre de l'avant avec la ville.
Ça aussi, je l'ai essayé, puis je pense que c'était juste bon à une intersection à Montréal ou quelque chose comme
mais
ça.
Oui, c'est ça.
Je me souviens je pense que c'était même avec toi, j'étais au coin de chez nous. En tout cas, c'était ridicule.
Oui, non, c'est ça. La solution est là, mais si personne l'utilise, c'est pas pratique.
Okay.
Si les villes l'utilisent pas et tout. Ensuite, dans les commerces, il peut y avoir Blind Square, mais ça peut être aussi des styles pas de tactile. Quand il y a des escaliers, pour que ça soit pas dangereux, qu'on sache qu'il y a des escaliers qui s'en viennent.
Okay.
C'est différentes façons. Mais c'est sûr que nous, on a mis beaucoup de l'avant Key to Access puis Blind Square, mais on a présenté d'autres choses. On a invité aussi des organismes à se joindre à nous pour juste parler d'accessibilité, sensibiliser déjà.
Oui, c'est ça. Vous avez fait une semaine il n'y a pas si longtemps, entre le 7 et le 11.
Oui, puis c'est ça. Puis montrer, donner des outils. Donc, exemple, il y avait des ateliers gratuits toute la semaine. Comment accueillir un employé ou un client aveugle. Comment rendre son environnement plus tactile, plus sécuritaire.
En tout cas, c'est sûrement pas comme abusez-vous. Moi, je suis rentré ce matin, puis ils m'ont dit qu'il était beau mon pyjama. Ça, j'ai trouvé ça très, très, très ordinaire comme accueil.
Non, c'est pas comme ça.
C'est parfait. Parfait. Tu viendras donner des ateliers, s'il te plaît.
Avec plaisir. Mais c'est ça. Fait que de vraiment donner des outils, mais il y avait différents ateliers pour ce qui pourrait intéresser différentes personnes ou types d'institutions.
Au niveau des coûts, par exemple, est-ce qu'il y a s'il y a des programmes je sais que pour la ville, entre autres, certains commerces, là, mais est-ce que là aussi, vous faites état de ce qui peut être utilisé comme subvention municipale?
Ça aurait été une bonne idée.
Okay.
On aurait dû t'en
parler.
Vous m'appellerez
la prochaine fois. Exactement.
Oui, mais non, mais je sais que nous, quand on voit passer les subventions, on a souvent profité pour promouvoir des projets. Mais non, c'est une bonne idée. Mais en fait, notre but aussi, c'est de montrer qu'il y a des choses qui sont simples et pas nécessairement très coûteuses à faire. Parce qu'on ne veut pas, par exemple, qu'un employeur qui veut accueillir des personnes aveugles pense que ça va lui coûter les yeux de la tête.
Ouais.
C'est pas le cas. C'est juste d'être un peu sensibilisé, de savoir que oui, là, il y a des programmes pour rendre le milieu de travail un peu plus accessible. Mais oui, c'est vraiment d'arrêter de faire peur aux gens, de penser qu'il faut investir énormément et tout. Puis quand c'est plus grand, là, si on parle de la ville et tout, bien eux, oui, là, quand ils ont quand ils changent une intersection de rue ou quand ils changent un feu sonore, mais là, ils le savent que c'est des frais. Mais sinon, non, c'était de montrer que ça pouvait être. Simple.
Oui, puis effectivement, quand tu parles de simplicité, je veux dire, bon, INCA, lorsqu'on arrive maintenant au bureau depuis quelques semaines, on entend la voix masculine de Michel qui nous dit, bon, INCA, donc on sait qu'on passe devant la porte, puis parce que, bon, les GPS, c'est à peu près à 10 mètres de précision.
Oui, on est les premiers à avoir fait ça. Je pense qu'on pourrait dire en Amérique du Nord, là, à mettre un signal sonore INCA qui dit « Ah, ben la porte, elle est là. »
C'est ça. Puis même à l'intérieur, c'est mais pour ceux qui connaissent pas les bureaux, la salle de bain est très, très loin du bureau de travail. Donc, avant, il fallait toujours demander à quelqu'un. Ben là, ils ont mis des indices tactiles au niveau des pieds pour s'y rendre. C'est sûr que c'est pas très, très discret parce qu'avec la canne,
c'est tactile, on peut se rendre aux toilettes. On parlait de sécurité tantôt, mais il y a aussi l'autonomie, de pouvoir se promener justement à l'eau toilette sans nécessairement toujours avoir à demander.
Je pense qu'un tapis aurait coûté moins cher puis ça aurait fait moins de bruit avec la canne, mais bon, vous m'appellerez pour celle-là aussi la prochaine fois.
Oui, mais ça, c'était pour montrer, en fait, qu'est-ce que c'est les tuiles pas de tactile aussi. C'est vrai qu'un tapis aurait été une autre solution. Mais les tuiles pas de tactile, ce qui est le fun, c'est qu'on sent la différence quand il y a un changement de direction. Nous, il y en avait quand même beaucoup de changements de direction de se rendre aux toilettes.
Effectivement, ça, c'est particulier. Bon, là, tu t'en vas à Toronto, semble-t-il?
Oui, Oui, on s'en va à Toronto pour justement voir les prochaines priorités à venir à INCA. Mais c'est sûr qu'on reste toujours hein, avec rendre la technologie accessible. C'est, dans Quartier Accessible, c'est une de nos priorités.
Ouais.
Avec nos différents programmes aussi, dans la campagne électorale, on en a profité pour solliciter les politiciens. C'est que ça soit le plus abordable et disponible.
On verra où ça s'en va. Je te souhaite un bon voyage. Puis merci d'avoir été là.
Ben, merci, ça fait plaisir. À bientôt.
Ah, d'accord, on s'en va à la pause. Non, c'est parce qu'on ne s'est pas compris. Je faisais signe à Jean-Sébastien, prépare la toune. De toute façon, tu peux encore la faire, Pretty Devil, qu'on va pouvoir mettre là. Puis ça va nous mener justement à la pause où Christiane ensuite va revenir pour nous faire sa petite revue, sa revue de la semaine. On va causer avec Dominique Tremblay qui, lui, revient sur cette intention qu'a le Comité international paralympique de modifier un peu sa structure. Et déjà, ils ont commencé à se réunir là-dessus. Et du côté de Saint-Romuald, on va causer d'une structure qui veut aider les personnes avec une déficience intellectuelle là, à devenir plus accessibles.
Vous écoutez Accès libre.
Christiane Campagna.
Luc Fortin.
Comment vas-tu?
Très bien.
C'est vrai que je devrais même pas te le dire. Je t'ai vu il y a 35 minutes, puis tu avais le sourire.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Pour un lundi matin, quand même.
Ben, c'est parce que je suis là.
Ça doit être ça.
Tout à fait. Tu veux nous parler d'autisme, entre autres, dans ta revue de presse?
Ben, en fait, c'est parce que c'est un bout d'un article qui était plus, de manière plus générale, sur la politique ontarienne et Doug Ford, dont on n'avait pas entendu parler pendant presque deux mois.
Ben non, ils l'ont mis dans un garde-robe.
Oui, exactement.
Un garde-Doug.
Le temps de la campagne électorale fédérale. C'est un article qui parlait de plein de sujets sur lesquels le gouvernement a fait volte-face et il y avait un volet qui concernait l'autisme. Puisqu'on se rappelle qu'en février, le gouvernement avait annoncé une refonte du programme. Il voulait permettre d'offrir du soutien à plus de familles en donnant l'argent directement pour les services. Il voulait que la subvention soit basée sur le revenu des familles et non pas sur les besoins de l'enfant.
Ce qui semblait une bonne idée lorsqu'on ne regardait pas, mais finalement, on se rendait compte très rapidement que c'était nettement insuffisant, là.
Oui, puis ça ne fonctionnait pas pour toutes sortes de raisons, parce que ça pouvait faire en sorte que les services publics, parce qu'on faisait une grande place au privé, quittaient certaines régions où, par exemple, il y avait beaucoup de francophones, et là, où il n'y avait pas assez de francophones, en fait, et là, les gens perdaient les services dans leur langue. C'est des changements qui ont vraiment provoqué la colère des parents. Il y a eu de nombreuses manifestations. Ouais. Et le ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, Todd Smith, parce qu'il y a même la ministre qui a un petit peu sauté dans cette histoire-là, a promis de corriger le tir et de présenter un nouveau programme d'aide d'ici avril 2020. Alors, ça valait la peine
on
pour les
pas
parents.
Plus, on n'a pas fait plus... Mon Dieu, parce que ça avait tellement bougé rapidement. Une fois que ça a commencé à bouger, j'aurais pensé qu'à ce moment-ci, c'était même réglé. Mais non, il va falloir attendre au prochain budget. OK.
Oui, probablement pour des raisons de bureaucratie.
Ouais, on fera ça.
Maintenant, on s'en va du côté des Paralympiques. Tout d'abord, Paris 2024 a dévoilé le 21 octobre dernier son nouvel emblème, un logo, si vous voulez. Mm-hmm. Dans lequel on associe trois symboles, la médaille d'or, la flamme et Marianne, cette symbole française, cette femme qui représente la Révolution et tout. Et ce qui est particulier dans ce cas-ci, c'est que cet emblème est commun à la fois aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques.
Ah, c'est bien! Alors, donc, c'est le même emblème, c'est le même logo pour les deux.
Oui, à quelques petites différences près, puisque au niveau international, il y a des différences dans le logo. Donc... on va avoir ces trois symboles-là sur les deux logos, sauf que dans le cas des Olympiques, il va y avoir les anneaux olympiques. Et dans le cas des Paralympiques, ce qu'on appelle les trois agitos paralympiques, les trois traits en forme de vague symbolisant le mouvement agito, qui signifie « je bouge » en latin. Ce sera la seule différence entre les deux logos.
Agito, donc, c'est le nom du symbole?
Symbole qui représente les Jeux paralympiques.
OK. Puis c'est un nom espagnol, un mot espagnol. T'sais, je sais c'est que tu as dit latin, mais je trouve pas que ça fait latin. OK. Il me semble que j'en mangerais des agitos.
La nourriture qui bouge? Je suis pas sûre, moi.
Je souris.
Faut y penser. Et aussi, les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 s'annoncent déjà comme les plus populaires
ben
de l'histoire.
Ben oui, on vend des tickets.
Les organisateurs japonais révèlent que 390 000 personnes ont participé à la première phase de la billetterie, qui est une loterie réservée aux résidents japonais, et qui s'est déroulée du 22 au 10 septembre. Ce résultat est plus de trois fois supérieur à celui enregistré pour la première phase de la billetterie des Jeux paralympiques de Londres en 2012.
Et pourtant, Londres, on sait combien ça a été un grand succès, alors ça augure bien.
Ça augure très, très bien. Maintenant, on reste dans le sport, dans une nouvelle moins joyeuse. Par contre, l'athlète paralympique belge Marieke Vermouth, qui avait notamment été championne de 100 mètres aux Jeux de Londres, justement, en 2012, est décédée par euthanasie mardi dernier à l'âge de 40 ans.
C'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas, eux. L'euthanasie,
oui.
Je trouve
c'est
ça fait,
carrément
ça
une
dur.
Injection létale.
Oui,
ouais.
Oui. Mais c'est pas l'aide médicale à mourir.
C'est que en Belgique, tu as droit à c'est une maladie incurable, mais je pense que la différence, c'est l'imminence de la mort qui fait la différence entre tes soins de fin de vie ou pas, tandis que là, c'est carrément avancer la fin
mort.
De vie,
ouais.
si on veut. Donc, elle vivait avec une maladie rare qui lui paralysait les jambes. Elle avait d'ailleurs, au fil du temps, adapté les sports auxquels elle participait en fonction de la progression de son handicap. Elle était devenue championne du monde de paratriathlon en 2006. En 2007, elle a réalisé un de ses rêves en disputant l'une des épreuves les plus mythiques du monde, l'Ironman d'Hawaï. Mmh. Et comme cette discipline à un certain stade était devenue trop exigeante pour elle, elle s'était lancée dans le char à voile puis dans l'athlétisme en 2012, année où elle a été sacrée championne en fauteuil roulant sur 100 mètres. Triple championne
c'est
du monde.
C'est tellement pas la même construction physique. Je veux dire, être bonne sur un 100 mètres puis être bonne pour courir un marathon, ce qui est le cas dans un triathlon, c'est deux choses complètement différentes, c'est étonnant.
À partir de ce moment-là, elle courait à la fois le 100 mètres, le 200 mètres et le 400 mètres. En 2015, elle a décroché... en 2016 à Rio, elle a décroché l'argent sur le 400 mètres. Et en 2017, dans une interview accordée au Télégraphe, elle avait expliqué être prête à abandonner le combat le plus difficile de sa vie.
Ouais.
Elle était atteinte d'une maladie dégénérative incurable. Et là, elle ne parvenait pratiquement plus à respirer seule. Elle avait perdu la vue, elle avait des spasmes. En septembre, elle a réalisé un dernier rêve qui était de rouler en Lamborghini. Et elle a dit « J'ai pu réaliser... »
C'est vrai, j'ai lu ça dans le texte. Ouais,
elle a dit « J'ai pu réaliser beaucoup de rêves et celui-ci était le dernier. »
OK. Rappelle-moi son nom.
Elle s'appelle, je ne sais pas si ma prononciation est bonne, mais Marieke Vermouth.
Vermouth.
Non, Vervoute.
Vervoute. OK. Monsieur Laliberté, est-ce qu'on a Dominique en bout du... Oui, on l'entend.
Ben oui, je suis là, mon cher Luc, ça va bien?
Ben oui, merci. Est-ce que tu connaissais, toi, Marieke Vervoute?
Ben de non, je ne l'avais jamais rencontrée en personne.
OK.
Pardon.
bon.
Mais pour...
Là, est-ce qu'on garde Christiane ou tu vas te rendre à la fin de l'entrevue, là?
Ben, laisse-le pas loin. Comme ça, pour peut-être me fournir un verre d'eau. ou du complément d'information si jamais j'en ai besoin.
Bon, tu es, moi, celui, tu es celui dont on parle d'international en passant par Laval.
Oui, c'est en plein
ça. J'ai dit qu'on ferait ça dans l'intro.
Je veux juste compléter l'information de Christiane concernant l'athlète belge.
Oui, Marika.
Tu disais que tu trouvais ça bizarre qu'elle faisait du triathlon et par la suite...
Non, c'est moi qui étais étonné.
Du 100 mètres, du 100 mètres et 400 mètres.
Ouais.
C'est seulement une question de classification. C'est que au moment de faire son triathlon, sa classification était plus élevée. Et lorsqu'elle a transféré en athlétisme seulement, elle était devenue un T52. Et les catégories seulement ouvertes, offertes pour sa catégorie, étaient seulement le 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres.
Okay.
Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne serait pas capable de s'illustrer là, sur des plus longues distances.
Mais on s'entendra que pour ce qui est de la propulsion, la forme physique, le cardio, le corps ne doit pas réagir de la même façon pour exceller dans ces deux types de disciplines-là. Là. C'est complètement différent.
Ça peut paraître un petit peu moins différent que si c'est quelqu'un qui court,
okay,
par exemple. Parce que c'est comme, oui, c'est du sprint, mais ça reste le même type de mouvement. On le fait juste un petit peu plus rapidement.
Ouais.
On propulse les roues un petit peu plus rapidement. Mais il n'y a pas une si grosse différence.
OK. Christiane, y a le livre de Christiane qui l'attend pour aller au casino. Est-ce qu'on a encore besoin d'elle ou...
On devrait être correct pour survivre, okay, pour un autre 4-5 minutes.
Merci beaucoup, Christiane. Dominique, tu veux nous parler du Comité international paralympique qui a siégé parce qu'ils envisagent apporter certaines modifications quoi, à la structure du comité ou même au mouvement paralympique international dans son ensemble?
Donc, en fin de semaine, s'est terminée l'Assemblée générale annuelle du Comité paralympique international. Au cours de la dernière année, ils ont fait une étude de toute la gouvernance qui a trait au comité paralympique international et ils ont l'intention de modifier plusieurs choses.
Okay.
Et la chose la plus importante pour moi, c'est que présentement, le comité paralympique international est aussi une fédération internationale pour 10 sports. Donc, le para-athlétisme, le para natation, le hockey sur luge ou le para-hockey, le para-ski alpin, le para-ski de fond et les autres sports d'hiver, à l'exception du curling, c'est le comité paralympique international qui est la fédération.
D'accord.
Mais dans le futur, ils vont vouloir se délaisser le rôle de fédération internationale pour se concentrer seulement au mouvement paralympique. Donc, avoir plus une incidence sur les Jeux paralympiques en général et aussi l'importance du mouvement paralympique à travers le monde comme outil social d'intégration.
Et est-ce que des... j'ai juste association en tête, là, j'avais le mot, mais en tout cas, je l'ai perdu. Mais est-ce qu'il y a des associations internationales déjà qui sont créées pour ces sports qui étaient sous la juridiction du CIP ou va falloir créer des associations de hockey ou de para-hockey, de ski?
Donc, ce qui va être intéressant de voir, et bon, ben ça c'est les jeux politiques dans
la fédération, peut-être.
Dans l'arrière-plan,
ouais,
c'est de voir si la Fédération internationale d'athlétisme ou la Fédération internationale de natation et sont intéressés à prendre sous leurs ailes le volet paralympique. Et ça va être très intéressant à voir. Bon, depuis plusieurs années, on voit que la Fédération, l'Union internationale de cyclistes contrôle le paracyclisme. Donc, ça serait une suite logique,
ouais,
que la Fédération internationale d'athlétisme ou, par exemple, la Fédération de hockey sur glace puisse prendre l'aspect
para,
entre autres.
Ouais.
D'ailleurs, ça se fait déjà au Canada depuis plus de de 15 ans. Là. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Là.
Parce que les sports qui sont, disons, qui sont directement associés aux personnes avec des limitations sont déjà fédérés, que ce soit le goalball, que ce soit la boccia, que ce soit peut-être la dynamophilie ou j'essaie de penser s'il y a d'autres sports là, qui sont uniquement, disons, de type handicap, là, mais eux ont déjà leur fédération?
Donc, la dynamophilie, la fédération et le comité paralympique international.
Okay.
Le goalball et le judo, la fédération, c'est la fédération des sports pour aveugles international.
Okay.
Et le boccia, c'est la fédération internationale de boccia,
ouais,
qui la contrôle. Le rugby en fauteuil roulant, ils ont leur propre, ah, oui, fédération.
Okay.
Mais il n'y a pas, donc ces sports-là n'ont pas d'équivalent direct aux Olympiques, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le ski alpin, mm-hmm, le ski de fond, la natation ou l'athlétisme.
Donc, ça pourrait être envisageable, c'est juste d'essayer d'arrimer tout ça et souhaiter avoir un accueil favorable de la part de ces fédérations-là.
Ça, puis comme toujours, c'est une question d'argent,
ouais,
une question de politique, une question de pouvoir. Ça va être intéressant de voir au cours des deux, trois prochaines années, de quelle direction ça va prendre. Mais le Comité paralympique international, qui d'ailleurs fête ses 30 ans cette année, et le Comité paralympique international a été fondé en 1989 par, entre autres, Robert Stedward, de l'Alberta, qui a été président pendant longtemps à la suite des Jeux paralympiques de Séoul. Avant ça, c'était une autre fédération qui s'occupait des Jeux paralympiques avec des fédérations par handicap.
Mm-hmm.
Mais c'est de voir dans les 30 prochaines années où le Comité paralympique international va se rendre. Ça va être très intéressant.
Est-ce qu'on remarque, Dominique, si dans l'ensemble, les fédérations ont bien desservi les populations d'athlètes avec des limitations fonctionnelles dans leurs cases respectives où on se sent peut-être comme athlète de deuxième ordre dans ces grandes fédérations-là? Je pense à l'athlétisme, je pense à la natation, je pense à...
Je pense que au Canada, ça varie.
Okay.
Mais en natation, j'entends des bons commentaires.
Okay. Le vélo, j'entends du bon.
J'entends du bon,
ouais,
aussi.
Ouais.
En athlétisme, ça s'améliore, mais c'est toujours une question de connaissance, de vouloir, mmh, d'argent et tout ça. Là. Puis c'est de voir si au niveau international, ça va être la même chose.
Ouais.
Aussi la classification, qui est un item intéressant, et on en a parlé dans des chroniques précédentes, mmh, la Fédération internationale de cyclisme, UCI, c'est quand même un très bon travail d'intégrer ces athlètes parents, mais ont énormément de problèmes en classification. Donc, ça va être de voir dans quelle direction ça va
ouais,
prendre.
Ouais. OK. Ben merci beaucoup. Et prenez du mieux de votre côté.
On va essayer.
Et on nous a demandé du jazz, alors on va écouter du Jamie Cullum. Puis ensuite, on va aller faire un petit tour du côté de Saint-Romuald.
What do you mean? Oh, when you're not overprotective of when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. You wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you up, then you down, that between. Ooh, I really wanna know, what do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no.
Il y avait l'écho, puis à un moment donné, ils ont enlevé l'écho. Parce que je demandais à Jean-Sébastien, selon toi, il tape sur quoi comme percussion dans la chanson? Dans les spectacles, il utilise souvent le piano. Dirais-tu que c'est la même chose?
J'ai des doutes. Ben, en fait, là, c'est un enregistrement studio, c'est dur à voir parce qu'il jouait du piano. Le piano, il y avait des micros dessus. S'il avait tapé sur le micro pendant qu'il joue, ça, on aurait entendu. Je sais vraiment
trop
pas.
Fort.
Ben, c'est, ça n'aurait pas sonné aussi beau, mais c'est une bonne question. On devrait peut-être commencer une série de concours à essayer d'identifier quel est ce bruit.
En autant qu'on trouve les réponses.
Oui, ben, non, ben, c'est sûr, sinon ça enlève un petit peu le plaisir.
Effectivement. Mélanie Dupuis est chef en réadaptation à la résidence à assistance continue de Saint-Romuald, au centre, c'est toujours long cette affaire-là, centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Mon Dieu, moi qui ai dit que Saint-Romuald, c'était au lac Saint-Jean, je vais me faire lapider par je ne sais pas qui. En tout cas, j'ai pas reçu Pierre à date, là, mais ça va venir. Qu'est-ce qu'une résidence à assistance continue, Mélanie?
Bonjour. Dans le fond, une résidence à assistance continue, c'est un milieu de vie substitut et transitoire pour des enfants, adolescents et jeunes adultes, dans mon cas à Saint-Romuald, là, qui ont soit une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme et un trouble de comportement ou un trouble grave de comportement qui fait que le milieu de vie dans lequel ils résidaient, il est compromis. Donc, ils viennent en épisode de service chez nous pour qu'on les aide là, à trouver des stratégies à mettre en place, soit par des adaptations ou des interventions de réadaptation.
Lorsque vous parlez de
éventuellement, oui.
Quand vous parlez de compromission du milieu de vie, c'est le milieu, disons, qui est fermé ou c'est la personne qui, malheureusement, par son comportement, n'est plus identifiable à ce type de milieu de vie?
C'est souvent que, dans le fond, les ressources qui sont dans le milieu de vie de cette personne-là ne souviennent plus à répondre à ses besoins.
OK. Donc, vous avez quoi, plus d'encadrement, c'est ce que je comprends, dans un centre à assistance continue?
Oui, effectivement. Okay. Dans le fond, on a une équipe d'éducateurs spécialisés avec des professionnels, une psychoéducatrice, on a des ergothérapeutes, orthophonistes.
Mais c'est pas un CHSLD, là. Il y a des tables de poule, c'est un environnement agréable dans lequel on réside.
Oui, on est vraiment une approche milieu de vie. On a une salle de jeu pour les enfants avec un tapis roulant, puis d'autres éléments d'activité aussi, là. Mais c'est sûr qu'il y a une intensité de service qui est offerte là, par l'équipe d'éducateurs là, pour mettre en place les interventions de réadaptation là, pour que l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte puisse transiter vers soit retourner à son ancien milieu de vie ou aller dans un autre milieu de vie là, qui est intégré dans la communauté.
On a entendu le mot enfant, jeunes adultes. Donc, l'âge de vos pensionnaires?
Ben, à la RAC Saint-Romuald, dans le fond, on a des enfants à partir de 10 ans. Okay. Puis on a des adultes là, qui ont jusqu'à 30 ans.
Et ils dorment là ou c'est plus des centres de jour?
Non, ils dorment vraiment okay. à la résidence.
Puis là, les parents viennent les visiter de temps en temps?
Oui, il y a des parents qui viennent les visiter. On en a aussi qui sortent en sortie de fin de semaine avec leurs parents à toutes les fins de semaine, qui vont faire deux dodos à la maison.
OK. Puis il reste combien de temps, disons, dans un centre d'assistance supervisé ou continu?
Ça peut être variable. Ça dépend des besoins de la personne. C'est sûr qu'on mise sur la rapidité quand même de l'épisode de service pour pas qu'ils perdent tous leurs liens sociaux là, avec le milieu dans lequel ils étaient. Mais ça peut être entre 30 jours et 2 ans.
Mais on sait... Oh, ça peut être quand même assez long parce qu'on sait que des fois, en milieu hospitalier, on a hâte que la personne sorte parce qu'on a besoin du lit pour finalement inviter quelqu'un d'autre. Il y a une autre personne qui va l'utiliser. Est-ce qu'il y a un déficit en termes de disponibilité et peut-être que la personne va être obligée de quitter avant qu'elle a vraiment appris tout ce qu'elle a à apprendre chez vous?
Non, nous, on les fait vraiment quitter au moment où est-ce que l'épisode est terminé.
OK.
Puis qu'on est capable d'assurer une transition puis un coaching aussi du prochain milieu là, qui va soit les réaccueillir ou les accueillir nouvellement là, pour transférer toutes les stratégies qu'on a mises en place. Là. Qu'est-ce qui fonctionne avec la personne? Ben, d'outiller le prochain milieu pour qu'il y ait une poursuite de la réadaptation. C'est comme on est un...
Oui? Oui, allez-y.
Comme on est un épisode de service, qui est vraiment, qui mise sur la diminution du trouble de comportement, ben oui, on va travailler, tu sais, à développer des capacités et des compétences chez ces personnes-là, sauf qu'il peut y en rester à développer à la fin de notre épisode de service, mais dès que le trouble de comportement, il est réduit et qu'on a les bonnes stratégies, mais c'est à ce moment-là qu'on dit on est prêt à transiter vers un autre milieu.
Ouais. Dans le parc que vous avez aménagé pour des jeunes avec une déficience intellectuelle ou un TSA, il y a entre autres, selon un article qu'on a lu, Christiane et moi, il n'y a pas si longtemps, un module qui veut essayer de combler un besoin, qui veut aider les jeunes à, je ne sais pas si c'est s'intégrer ou développer une dextérité fine. À quoi sert le nouveau module?
Ben, c'est qu'on avait une cour, dans le fond, à la RAC, une cour clôturée où est-ce que on avait pas beaucoup de jeux pour les enfants. On avait un panier de basketball et certains ballons. Et comme ces jeunes-là ont quand même un besoin de dépenses énergétiques, hein, puis ils ont besoin de bouger aussi pour apprendre à comment ça se passe dans leur environnement, puis développer toute la motricité globale et fine dans leur développement, bien, on a sollicité des fondations pour faire l'acquisition là, d'un module de jeu qui pourrait répondre à ces besoins-là de développement normal au niveau moteur, mais aussi pour leur permettre de dépenser leur énergie dans un environnement qui est sécuritaire pour eux en attendant qu'on fasse le saut vers les parcs de la communauté.
Avez-vous été obligé d'adapter le module d'une quelconque façon ou c'est finalement, somme toute, le même type de module qu'on va retrouver dans les parcs?
C'est un module, dans le fond, avec la compagnie avec qui on a fait affaire, on avait une panoplie de choix. Puis c'est sûr qu'on a choisi des morceaux de module qui nous semblaient le plus approprié là, pour la tranche d'âge des enfants puis ados qu'on reçoit. Mais on n'a pas eu besoin de faire adapter les différents morceaux. Là. C'est plus dans la sélection qu'on a faite là, qu'on y a été avec un niveau de développement là, plus jeune.
Est-ce qu'il y a, en terminant, peut-être, je ne sais pas, d'autres projets sur lesquels vous planchez, que ce soit pour le développement du parc ou du milieu de vie en général?
Oui, mais on a fait une nouvelle proposition là parce que l'été, on a quand même des chauds étés, les derniers étés, puis on aimerait bien avoir là pas un module là, mais des jeux d'eau dans notre cours là pour agrémenter le tout, justement pour que les enfants apprennent à jouer dans l'eau. puis qu'on puisse transférer là, vers les parcs de la communauté qui offrent ces jeux d'eau-là là, pour les intégrer graduellement.
Ça peut présenter un défi certain pour certains enfants avec un TSA là, qui n'aiment pas nécessairement ce genre de truc-là, mais...
Oui, c'est ça. Certains enfants avec un TSA ont des difficultés au niveau du traitement de l'information sensorielle. Ouais. Fait que, oui, ça peut représenter une difficulté, mais c'est toute la gestion des émotions de plaisir qui va autour. Là. Ouais. Il faut gérer aussi...
Bonne continuité. Merci beaucoup, Mélanie Dupuis.
Hey, merci beaucoup à vous.
Je rappelle qu'elle est chef en réadaptation à la résidence à assistance continue de Saint-Romuald de Chaudière-Appalaches. Diantre, mille excuses. Semble-t-il que cette journée-là, je n'étais pas au cours. Jean-Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Christiane. Vous, on vous retrouve lundi prochain pour la première de novembre. Ciao, ciao.